Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
L'incendie du bâtiment du programme élargi de vaccination PEV à Bounia, bâtiment où sont conservés des vaccins destinés aux trois territoires de la province de l'Ituri. L'origine du feu est inconnue pour l'heure. Les dégâts sont estimés à 2 millions de dollars américains. Nouveaux affrontements ce matin entre les FARDC et le M23 à Bouéza dans le Rutshuru au Nord Kivu. Plusieurs habitants de la région fuient vers la route Goma-Rutshuru, rapportent plusieurs sources sur place. Et puis, c'est invité ce midi, Wenceslas Boussané, spécialiste en droit des peuples autochtones. Il a facilité les échanges au cours d'un atelier organisé récemment à Bukavu par l'ONG RND, atelier en faveur de la protection et la promotion des peuples autochtones pygmées. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri à Bounia, le bâtiment du programme élargi de vaccination PEV, où sont conservés des vaccins destinés aux trois territoires de la province, est parti en fumée la nuit dernière dans un incendie dont l'origine reste inconnue. Selon des sources médicales, les dégâts enregistrés sont estimés à 2 millions de dollars. Autre conséquence, 23 zones de santé sur les 36 que compte la province de l'Ituri sont désormais privées de vaccins contre plusieurs maladies. Des précisions avec Jean-Claude Lokidile.
Parmi les vaccins cassinés, il y a entre autres les vaccins contre la COVID-19, la poliomyélite, la rougeole, la coqueluche, la fièvre jaune ou encore la tuberculose. Au total, ce sont des milliers de femmes ainsi que des enfants qui sont désormais privés de vaccins contre 13 maladies, nous a confié en même temps les 7 congélateurs, la chambre froide et les frigos qui servaient pour la conservation de ces vaccins sont également partis en fumée. Un agent rencontré sur place parle également du mobilier de bureau, dont des ordinateurs, des correspondances et un générateur réduit en cendres. Malgré le secours du véhicule anti-incendie de la MONUSCO, le feu n'a pas été maîtrisé à temps, a déclaré un habitant. Cette situation risque de pénaliser les touristes si rien n'est fait dans l'urgence pour doter la ville de Bounia d'une nouvelle chambre froide et de vaccins. On risque d'assister à la résurgence de certaines maladies qui sont pourtant déjà maîtrisées, nous a confié une autorité médicale. Et pour l'heure, personne ne sait se prononcer sur l'origine de cet incendie. D'autres évoquent la piste d'une surcharge du courant électrique. Bounia, Jean-Claude Loki, il est Radio Capi.
Direction le Nord Kivu. Des affrontements ont opposé ce mardi matin les forces armées de la RDC aux rebelles du M23 dans le groupement de Bouéza, territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources dans la région, un mouvement massif des populations fuyant vers la route principale Goma-Rutshuru est observé. Le récit de Bernard Denyangi.
Depuis 4h du matin, selon plusieurs sources, les populations du groupement de Bouéza auraient vu les combattants de la rébellion du M23, venus probablement de Ruvumu, groupement de Kisigari, contournaient les positions des FARDC en passant par le village Nyaruondo pour déboucher vers le village Bushandaba, Ruseke. Ce mouvement des rebelles a inquiété la population de quelques villages de la localité de Ntamuginga, groupement de Bouéza, et même celle de Bugina, qui ont commencé à vider les lieux depuis tôt le matin déjà, prenant la direction de Kako, Rubare et Kalengira, 15 km sur la nationale numéro 2 Goma-Rutshuru. Les mêmes sources civiles et administratives ajoutent que c'est vers 8h locales que des tirs d'armes lourdes et légères ont commencé dans la zone autour de la colline de Bikona, qui serait stratégique après celle de Mbuzi. Elle regrette qu'à Rutshuru, 11 km au sud-est de Rutshuru Centre, que certains civils auraient été empêchés par les M23 de quitter le village. De leur côté, les sources de la MONUSCO précisent que les troupes de casques bleus déployées dans la région ont été placées en état d'alerte. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Province de Kwilu, le militaire armé qui a été arrêté et détenu à l'auditorat militaire il y a quelques jours dans la ville de Kikwit n'est pas un Rwandais mais un Congolais d'origine, originaire de l'Équateur. Précision de la police nationale à la suite des rumeurs répandues dans la ville de Kikwit et sur la toile. Le porte-parole de la PNC au Kwilu qui le dit appelle la population au calme. Le colonel Camille Atungale dans ses propos recueillis par Irène Boma.
Dans la ville de Kikwit, contrairement à l'information diffusée faisant état il y a quelques jours de l'arrestation d'un militaire rwandais armé, après le recoupement de toutes les informations, au fait, le militaire arrêté n'était qu'un militaire congolais, originaire d'ailleurs de la province de l'Équateur. Il est de la garnison de Kaemba dans le Kwango. Mais il aurait passé 3 mois à Kikwit. Et mais souvent le soir, on le voyait se livrer à la tracasserie. Il faisait l'extorsion. Il ravissait des téléphones, des objets de valeur. C'est pourquoi informer nos services l'ont interpellé, l'ont arrêté. Il a été mis à la disposition de l'auditorat supérieur militaire à Tikuit pour des raisons d'enquête. À la population, tout ce que la police peut demander à la population, c'est d'abord de ne pas paniquer. De ne pas paniquer, contrairement à cette information, vous avez maintenant la vérité, parce que c'est vrai que le monsieur n'était pas un Rwandais, mais plutôt un Congolais de la province de l'Équateur. La police demande à la population de ne pas stigmatiser les gens, parce que tout simplement la personne ne connaît pas la langue locale ou même une langue nationale.
L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, en RDC, dit avoir recensé 297 935 déplacés internes dans le Tanganyika en l'espace de 36 mois jusqu'en mai dernier. Ceci est contenu dans un rapport publié hier. Ce rapport entre dans le cadre du programme de l'OIM portant sur le suivi des déplacements d'ITM dans la province du Tanganyika. Plus de détails avec Jean-Pierre Elali Koko.
Du 4 avril au 6 mai 2022, en étroite coordination avec la Division provinciale des affaires humanitaires, l'OIM, avec l'appui du partenaire de développement humain et protection de l'environnement social, ont réalisé des évaluations multisectorielles, notamment de mouvements de population dans 4 770 villages contenus dans 11 zones de santé. D'après les informations collectées auprès d'environ 14 000 informateurs clés, des 106 000 personnes déplacées pendant les 24 derniers mois sont présentes dans les 86% de l'étendue de la province évaluée. Le 10e est un programme de l'OIM. Il a pour objectif de fournir des informations de base concernant des mouvements de personnes déplacées et retournées dans les Tanganyika en vue d'améliorer la compréhension des dynamiques du déplacement forcé et la mise en place des réponses humanitaires appropriées. La province du Tanganyika enregistre actuellement 330 000 personnes déplacées internes, soit environ 10% de la population totale de la province, d'après bien entendu les statistiques de la Division provinciale de la santé.
En plus bref, notez que le président américain a nommé Lucy Tamlin comme nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis en RDC. Cette diplomate américaine de carrière remplace à ce poste l'ambassadeur Mike Hammer, qui a été nommé début juin envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique. Jusqu'ici, Lucy Tamlin était chargée d'affaires par intérim à l'ambassade des États-Unis à Khartoum au Soudan. Justice, c'est aujourd'hui que la Cour militaire débute l'instruction du fond dans l'affaire qui oppose le ministère public à François Béa, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. L'ex-patron du Conseil national de sécurité est accusé avec 4 policiers et militaires des complots contre le chef de l'État, offense à Félix-Antoine Tshisekedi, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline et violation des consignes. Selon l'arrêt avant dire droit rendu par la Haute Cour à sa dernière audience à la prison centrale de Makala, la célérité des audiences a été décidée à raison de 3 audiences dès la semaine prochaine. Cette semaine, 2 audiences sont prévues, soit aujourd'hui et vendredi prochain à la Haute Cour, mais les prévenus restent réticents quant à la délocalisation des audiences, prétextant sur leur sécurité. Rappelons que la Haute Cour a décrété le huis clos des audiences, refusant la publicité du procès au motif de secret des défenses. Kasaï Oriental, le nouveau gouvernement provincial est désormais connu. L'arrêté provincial portant publication de ce gouvernement a été lu hier soir sur la RTNC, antenne provinciale. Des détails avec Esther Ndalafina.
Le nouveau gouvernement provincial est composé de 10 ministres provinciaux dont une femme, 3 commissaires généraux dont une femme ainsi que de 2 secrétaires exécutifs provinciaux. Parmi ces ministres, Yves Mwamba Kadima, président de l'Assemblée provinciale de CHU, fait son entrée dans ce premier gouvernement provincial de Patrick Mathias Kabeya comme ministre provincial de la Justice, Droits humains, Transports et Voies de communication. Une ancienne ministre provinciale du gouvernement d'Alphonse Goïkassanji, gouverneur honoraire, figure sur la liste des nominés. Dès lors qu'Aleta Chamala, la seule femme ministre provinciale, est en charge du plan, budget et aménagement du territoire. Un journaliste fait aussi son entrée au gouvernement provincial. Il s'agit de Léon Kapiamba Chimankinda, qui sera désormais en charge de la communication, du travail et de la prévoyance sociale. Jachin Kalonji est le seul ministre provincial du gouvernement de Jean-Maweja Mouteba qui a été récupéré dans ce nouveau gouvernement, mais cette fois-ci comme commissaire général en charge de l'énergie et du commerce. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans l'actualité, la redynamisation du partenariat entre la RDC et la Belgique a été au cœur de la rencontre hier entre le ministre d'État belge André Flao et le président du Sénat, Modeste Baati-Lukwebo, en séjour à Kinshasa pour participer aux obsèques du premier ministre Patrice Emery Lumumba. André Flao a échangé avec Modeste Baati sur la mise en œuvre de l'accord de coopération interparlementaire signé en Belgique au début de ce mois de juin par Modeste Baati pour le compte du Parlement congolais et Eliane Tillieu, présidente de la Chambre belge des représentants. Baati-Lukwebo et André Flao ont aussi échangé sur des projets de développement entre leurs pays respectifs. Le ministre d'État belge est au micro de Michel Kifindangoy.
Je suis présent pour le gouvernement belge pour l'anniversaire de l'indépendance, mais aussi à ce moment solennel et de recueillement, le retour au pays sur cette terre, monsieur le Premier ministre, après trop grand nombre d'années passées dans notre pays. Je crois que c'était un mouvement important qui était précédé par la signature du protocole avec le président du Sénat et des assemblées parlementaires belges, je crois que c'est fondamental, qui a été suivi aussi par la visite royale. Mais après la période des cérémonies, après la période de recueillement, il y a les engagements qui sont pris, qui sont confirmés, et il faut donc redynamiser le partenariat entre deux peuples qui ne se sont jamais séparés, mais je parle au niveau des hommes et des femmes qui constituent le Congo et qui constituent la Belgique. Et nous avons pour devoir aujourd'hui de travailler à la mise en œuvre de projets concrets dans tous les domaines. Pour ça, on a besoin de partenariats.
André Flao ajoute que la coopération militaire entre la RDC et la Belgique a également été évoquée au cours de la rencontre avec Modeste Baati. La question sera évoquée avec plusieurs autres autorités du pays. Ce membre du gouvernement belge sera aussi reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Rendons-nous dans la province du Lomami. Les enseignants du territoire de Malimbankoulou sont entrés en grève depuis hier, comme ils avaient annoncé. Ils accusent 3 mois d'arriéré de salaire. Les parents d'élèves regrettent que ce mouvement intervienne à quelques jours de la clôture de l'année scolaire. Toutefois, ils encouragent le gouvernement à trouver une solution avant la date de la tenue des épreuves certificatives. On écoute à ce sujet Darius Banza Mwanabouté, parent d'une élève de la 6e primaire. Il a été joint par Jean Gando.
Les enseignants se sont mis en accord qu'il n'y aura pas de processus des examens TENASOSP, TENASEP ainsi que la session ordinaire. D'ailleurs, ma fille étudie en 6e primaire. Jusqu'à ce moment où je vous parle, les enseignants se sont rassemblés hier ici déclarant leur salaire. Et nous acceptons, ils ne pourront pas continuer, ils ne sont pas des bêtes, que les gouvernements songent à ce qu'ils puissent liquider comme ils se sont dit avant les TENASEP. En tout cas, nous, les parents de Malema, nous regrettons que le gouvernement songe parce que c'est lui qui est capable à faire le tout, c'est lui qui détient l'argent, qu'il paye les enseignants, c'est leur droit, les codes du travail les soulignent. Mon enfant elle-même décide de dire que est-ce que l'on pourra nous envoyer au premier CO ou 7e EB si ça bloquait. Ce sont des questions que me posent bien des enfants ici.
Actualité internationale. Le président du Conseil souverain du Soudan s'est rendu lundi à Al-Fashaka, dans l'est du pays. C'est dans cette zone frontalière que 7 soldats soudanais et un civil fait prisonniers ont été exécutés par l'armée éthiopienne, selon un communiqué du ministère soudanais des Affaires étrangères. Khartoum et Addis Abeba se disputent cette région connue pour la fertilité de son sol. Le général Abdel Fattah Bourane est allé donc soutenir les militaires marqués par cette épreuve. Guinée, le dialogue pour tenter d'apaiser le climat politique morose dans le pays, c'est ce que propose le gouvernement de transition. Hier, partis politiques et organisations de la société civile ont été reçus par le premier ministre de la transition. Objectif, cerner les contours à même de favoriser une marche vers un retour à l'ordre constitutionnel apaisé.
L'invité.
Amener les magistrats congolais à être porteurs du plaidoyer en faveur de la protection et la promotion des peuples autochtones pygmées, c'est l'objectif d'un atelier organisé la semaine dernière à Bukavu par l'organisation Environnement, Ressources naturelles et Développement. Quelles sont les principales revendications des peuples autochtones? Comment résoudre la problématique foncière avec le parc de Kahuzi-Biega? Cynthia Bachizi s'est entretenue à ce sujet avec le professeur Wenceslas Boussané qui a facilité les échanges au cours de cet atelier. Il est de l'Université catholique de Bukavu et spécialiste en droit des peuples autochtones. Suivez.
Professeur Boussané, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici dans un atelier d'échange avec des magistrats du ressort de la Cour d'appel du Sud Kivu. Pourquoi exactement?
Il s'est fait que le droit des peuples autochtones pygmées, pour qu'ils puissent se réaliser de manière satisfaisante, beaucoup d'acteurs doivent être impliqués, doivent donner leur part, notamment les magistrats. En cas de contestation de droit, en cas de confirmation de droit, le dernier ressort, c'est la justice. Et voilà pourquoi l'organisation a envisagé, ou envisage depuis quand même quelques années, ce n'est pas la première fois, d'avoir des échanges avec des magistrats pour notamment, disons, parler de la cause des peuples autochtones pygmées, de pouvoir bien prendre conscience de l'ampleur du problème qui est celle de cette catégorie de nos concitoyens, afin que lorsqu'ils rentrent dans leur cabinet, dans leur espace de travail, qu'ils puissent avoir une attention, disons, plus particulière par rapport à la cause des peuples autochtones pygmées.
Quelle est aujourd'hui vraiment la cause des peuples autochtones?
Je peux dire que les peuples autochtones, d'abord, c'est une réalité qui est assez vaste, hein, parce que ce n'est pas seulement limité à notre pays, ni à notre province. Pour nous, nous avons les peuples autochtones pygmées, alors qu'en dehors de la RDC, en dehors du continent africain, il y a d'autres peuples autochtones pygmées. Mais la plupart des fois, que ce soit ici en RDC, que ce soit en Afrique, que ce soit en dehors de l'Afrique, c'est la marginalité de cette catégorie. La tendance de vivre des discriminations, de ne pas accéder à la même égalité des chances, et essentiellement la question de la tenure foncière. La plupart des peuples autochtones, dont les pygmées, n'ont pas vraiment des droits fonciers suffisamment garantis pour leur permettre une bonne implantation socio-économique.
La question foncière revient souvent. Je pose la question parce que je me dis, au niveau du PNKB, vous pensez qu'on doit vraiment œuvrer à trouver un terrain d'entente afin que la question foncière entre les peuples autochtones pygmées et le PNKB soit résolue?
Je pense qu'il faut qu'on trouve une solution. Il s'agit des citoyens congolais comme tant d'autres. Et la Constitution garantit à tout le monde le droit de propriété. Notamment en matière foncière, il y a des droits qui sont reconnus à tout citoyen, notamment le droit à la terre. Et ainsi, on doit trouver une solution pour que les pygmées, comme n'importe quel Congolais aussi, puissent avoir aussi des droits protégés de manière significative, de manière efficace. Il faut trouver une solution. Maintenant, nous évoquons les PNKB. Les PNKB, ce n'est qu'un cas, notamment à prendre parmi tant d'autres, mais je crois que c'est au niveau de l'État congolais en général, au niveau des politiques publiques en matière de protection des droits, de tout le monde d'abord, et puis des catégories particulières, notamment les peuples autochtones pygmées. L'État congolais doit avoir des politiques en matière des droits de tout le monde, mais également une politique en matière de conservation de la nature, mais qui soit ouverte à laisser un espace pour les catégories comme les peuples autochtones pygmées, qui, par leur nature, ont une grande proximité avec les aires protégées, les forêts, etc.
Vous pensez que les peuples autochtones pygmées ont été expropriés de leurs terres au niveau du PNKB?
Au sens juridique, de manière rigoureuse, ce n'est pas, disons, évident à confirmer. Mais la réalité est qu'ils sont dépourvus d'une terre. Dans leur mental, les peuples autochtones pygmées estiment que toute la terre de la RDC leur appartenait, parce que déjà nous l'avons appris, ils sont les premiers occupants. Mais au fur et à mesure, leur espace s'est restreint et ils se sont retrouvés dans les espaces des forêts. Et dans les forêts, il y en a qui ont été classés comme aires protégées, parcs, réserves, etc. Et donc, ils peuvent notamment avoir l'idée que le PNKB et la forêt qui est là-bas leur appartenaient. Mais sur le plan juridique, au regard de la loi qui est actuellement en vigueur, on ne peut pas l'affirmer ainsi. Mais ce qui est vrai, et là, l'État congolais ainsi que nos juridictions doivent trouver une solution, il faut qu'eux aussi puissent avoir un espace foncier pour des activités agricoles, pour l'élevage, pour notamment l'agriculture, etc., comme tout le monde. Donc, est-ce qu'ils ont été expropriés? Je ne le dirai pas de manière rigoureuse, mais au moins ils ont été expulsés. Ils ont été mis dehors de cet espace où ils se reconnaissaient comme étant dans leur terroir, on peut dire, ancestral.
Professeur Houssane, je vous remercie.
Je vous remercie également.
Notre invité est spécialiste en droit des peuples autochtones. Il répondait aux questions de Cynthia Bachizi Nabizana. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Chikota Chivuita, supervision de Ben Kabamba, à la mise en onde Polydor Basunga, et devant ce micro, Belinda Bosuma. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.